Luc chapitre 19, versets 1 à 10, je fais la lecture. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici, un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Magnifique histoire. Jésus est en route pour Jérusalem et il passe à Jéricho. Jéricho occupe le centre d'une délicieuse oasis couverte d'une forêt de palmiers et de plantes aromatiques. En tout cas, à cette époque-là, aujourd'hui, c'est devenu presque un désert. Le nom même de Jéricho signifie en hébreu « bonne odeur ». Imaginez ça. Apparemment, c'est très réputé aussi pour ses roses. C'était une ville aussi de prêtres, une ville religieuse. Vous vous souvenez de cette parabole du bon samaritain qui se passait sur la route qui menait de Jérusalem à Jéricho. Et là, il y avait eu un homme qui avait été violenté, laissé pour mort, pillé, et un sacrificateur était passé. C'était détourné de lui, et puis ensuite un lévite est passé. Et puis finalement, c'est un samaritain qui a pris soin de lui. Mais donc c'était une route fréquentée aussi par les religieux, et la ville de Jéricho était peuplée d'hommes et de femmes religieuses. C'était aussi une ville commerçante, située sur un axe très fréquenté par lequel arrivaient toutes les caravanes d'Orient. C'était la porte pour Israël. Et là, où il y a des commerçants, il y avait aussi des voleurs et des collecteurs d'impôts. Alors les collecteurs d'impôts, c'était des personnages particuliers. Israël était une nation conquise, sous contrôle militaire, et ses vainqueurs, les Romains, imposaient de lourdes taxes aux populations. Rome réclamait une somme fixe aux collecteurs d'impôts. C'est ça le bon sens des Romains. Plutôt que d'organiser toute l'administration fiscale, ils ont dit aux collecteurs, vous nous ramenez telle somme d'argent. Et nous, on vous met toute la force de l'Empire, toute l'armée romaine, en votre pouvoir pour que vous puissiez récolter de l'argent. Alors, bien sûr, c'est pas un mal d'être imposé, hein. On n'a rien contre ceux qui travaillent aux impôts encore aujourd'hui. C'est une fonction utile. Payez vos impôts. Mais dans la manière dont était faite la collecte, on voit toute la perversion. C'est-à-dire que les collecteurs devaient payer la somme et ensuite ils se remboursaient auprès des gens. Et ils se remboursaient, et il y a toujours les faux frais, et donc ils collectaient de toutes les manières possibles, et ils s'enrichissaient énormément. Tout était taxable. La fraude, les extorsions étaient très courantes, et donc ces hommes, qui étaient au fond des collaborateurs, si on les transpose à notre période, c'était les collaborateurs que nos grands-parents ont connus dans la Deuxième Guerre mondiale. C'était des gens qui travaillaient pour l'ennemi et qui abusaient de la population. Et donc, ils étaient haïs de tous. Les publicains sont associés très souvent aux gens de mauvaise vie. Dans tout le Nouveau Testament, on parle des publicains et des gens de mauvaise vie. C'est-à-dire, c'est pareil. Il y a les publicains, puis il y a aussi des voleurs, mais qui portent, eux, l'étiquette de voleurs. Il y a des publicains, et puis il y a les criminels, mais eux, ils portent l'étiquette. Au moins, on sait qui c'est. Mais les publicains étaient de ces hommes-là. Et ils sont associés aux prostituées, aux voleurs, aux brigands. Ils n'avaient, au fond, aucun véritable ami, sauf excepté les gens de leur espèce, c'est-à-dire les autres publicains. Ils n'étaient pas acceptés dans les synagogues. Ils n'avaient que la compagnie de leurs semblables. Et Zachée, lui, il est le chef de ces gens-là. Il est le chef de toute cette région de collecteurs d'impôts. Au verset 2, il est dit qu'il était très riche parce qu'il a profité du système à outrance et il s'est enrichi. Zachée, le nom Zachée, le prénom Zachée, ça signifie propre, pur, innocent, juste. Vous voyez un peu l'ambition de ses parents. Un garçon pur, innocent, juste. Et au fond, voilà que l'amour de l'argent, le besoin d'en posséder, la cupidité, a fait de lui tout le contraire. Il est devenu sale, impur, coupable et injuste. Qu'êtes-vous prêt à faire pour de l'argent ? Qu'êtes-vous prêt à faire pour de l'argent ? Certains sont prêts à jouer le toit qui abrite leurs enfants au poker ou aux courses. D'autres sont prêts à vendre leur charme. D'autres à tricher, à mentir, à tromper même les plus faibles. D'autres à négliger leurs femmes et leurs enfants pour gagner plus. D'autres à voler leur propre famille ou amis. D'autres à ruiner, comme Zachée, toute la notoriété de sa propre famille. Qu'êtes-vous prêt à faire pour de l'argent ? Andrew Carnegie, qui est devenu l'homme le plus riche du monde au début du XXe siècle, grâce à son entreprise de sidérurgie, il a dit à 33 ans, il a évalué sans pitié l'état de son propre cœur, et il a écrit ceci. Les hommes ont besoin d'idoles. Amasser les richesses est l'une des pires espèces d'idolâtrie. Aucune idole n'est plus basse que l'adoration de l'argent. Voilà ce qu'il continue par écrire. Quoi que je fasse, je sais que j'y mettrai tout mon cœur. Je dois donc faire attention de choisir la vie qui élèvera le plus ma nature. Si je continue comme ça, submergé par les soucis de l'entreprise, la plupart de mes pensées centrées sur les manières d'engranger plus d'argent dans le moins de temps possible, je finirai dans une déchéance sans espoir. Voilà un homme qui est conscient, qui était conscient du pouvoir terrible de l'argent, qu'exerçait l'argent, et l'incapacité de son propre cœur à se prémunir contre cela. Alors, il est devenu un philanthrope, un bienfaiteur, et on se souvient de lui aux États-Unis pour cela. Jusqu'à sa mort en 1919, il aura laissé plus de 350 millions de dollars à diverses fondations. Et les derniers 30 millions de sa fortune, restant à sa mort, ont été légués à diverses œuvres de charité. Il a créé aux États-Unis environ 2500 bibliothèques publiques gratuites portant son nom, les Carnegie Libraries. Et il a aussi financé 65 bibliothèques annexes dans la ville de New York. Il a aussi aidé des institutions culturelles, des musées, des églises, des parcs publics. Et il a fait construire la célèbre salle de spectacle Carnegie Hall de New York, inaugurée en 1891. Voilà un homme qui voit, qui possède une fortune colossale, qui voit la capacité de son cœur à s'y attacher et qui tente de se prémunir en donnant, en faisant plein de bonnes choses, et pourtant, malgré cette connaissance intime de son cœur, une bonne partie des effets néfastes qu'il redoutait tant dans son propre cœur sont devenus évidents dans sa vie. Il a exploité aussi tout le milieu ouvrier d'une manière terrible. Mais il ne savait pas comment éradiquer de son cœur l'attachement à l'argent. La cupidité se cache aux yeux de ses victimes, de sorte que très peu la confessent alors que tous en sont atteints. Et je vous propose de réfléchir de cette manière-là, non pas en pointant du doigt Zachée ou un autre, mais en pointant votre propre cœur, notre propre cœur à chacun. Je pense qu'on a tous cette faculté à s'attacher énormément, excessivement à l'argent, d'y chercher son refuge, son secours, sa sécurité, y mettre sa confiance. Et donc je vous propose de voir au travers de trois chocs comment Zachée, par sa conversion à Christ, a été guéri de sa cupidité, c'est-à-dire de son attachement à l'argent. On verra un premier choc. Le premier choc, c'est le petit publicain qui monte dans un arbre. On verra ensuite le deuxième choc, le grand sauveur qui s'invite chez le pécheur. Et puis enfin, le troisième choc, c'est la puissance de la grâce qui se manifeste dans une vie. Premier choc, le petit publicain monte dans un arbre. Jésus arrive donc dans cette ville de Jéricho et toute la ville se presse pour le voir passer. Il est accompagné de nombreux disciples qui montent avec lui à Jérusalem pour la fête de Pâques où lui-même s'offrira comme l'agneau immolé. Zachée aussi est intéressé par Jésus. Il ne nous est pas dit expressément pourquoi. Peut-être est-ce à cause de la résurrection de Lazare qui a eu lieu quelques jours plus tôt dans une ville à Béthanie qui est pas très loin de Jéricho. En tout cas, certainement, la renommée de Jésus le précède sur les routes. Juste avant d'entrer dans Jéricho, il a guéri Bartimée, l'aveugle. Il venait de guérir cet aveugle. Chapitre 18, verset 35. Mais pour Zachée, voir Jésus, c'était particulièrement difficile. Il y a une grande foule, et puis il est petit. Habituellement, on laisse les petits devant. Les photos de classe, moi j'ai toujours été derrière. Mais les petits, normalement, on les laisse passer devant pour qu'ils voient. Mais la foule, là, elle tient sa vengeance à l'égard de Zachée. Et tout le monde se grandit plutôt que pour empêcher Zachée de voir Jésus et d'avoir accès à Jésus. Et ne sachant pas comment faire, alors voilà l'idée surprenante qu'il a. Il court devant, sachant le chemin que Jésus va emprunter pour regagner la direction de Jérusalem. Il grimpe dans un arbre, un sycomore, et puis là, il attend le passage de Jésus. Il y a des choses que l'on fait quand on est enfant et qu'on ne fait plus jamais quand on est adulte. Et surtout si on est un notable, un personnage public. En fait, c'était ridicule pour Zachée que de monter dans un arbre. Qu'est-ce qui pousse un homme comme Zachée à se mettre dans une situation aussi grotesque ? Il n'est pas simplement curieux comme la foule. Il y a quelque chose de plus chez Zachée. C'est-à-dire, il a un cœur qui est insatisfait. Il a un vide terrible dans son âme. Toute la richesse qu'il a amassée n'a pu remplir son cœur. Il sait qu'il est un pécheur. Alors il veut voir Jésus, qu'on appelle le Messie, le prophète. Il veut voir. En grec, il y a plusieurs mots pour voir. Il y a au moins trois mots pour voir. En français, on dit voir avec les mêmes nuances, mais on peut juste voir quelqu'un. Oui, je vois ça, je vois ça. Je vois un tel. Je vois... Mais parfois, on veut voir dans le sens d'observer. Je veux voir. Mais parfois, il y a un degré supplémentaire, c'est je veux voir pour rencontrer. Je veux voir le maire, pas juste le voir lui. Une photo me suffirait dans ce cas. Non, mais je veux le voir, je veux le rencontrer, je veux lui parler. Eh bien, c'est ce mot-là qui est employé, c'est ce mot voir pour saisir, pour rencontrer vraiment. C'est la sixième rencontre de Jésus avec un publicain dans l'évangile de Luc. Et toutes sont favorables aux publicains. C'est incroyable. Ces hommes si méprisables, si méprisés par la population, chaque fois que Jésus rencontre un publicain, c'est la fête. Le publicain croit, il se convertit, il se donne à Christ. Toutes les paraboles, on a vu ça la semaine dernière encore, un publicain qui place sa confiance dans le Seigneur. Jésus est même appelé l'ami des publicains et des gens de mauvaise vie. On a l'impression que voilà, son cœur est porté vers eux. C'est encourageant pour nous. Il est fort possible aussi que Zachée ait entendu parler de ce qui s'est passé avec Lévi. Hein, en Luc chapitre 5, je vous lis juste deux versets, versets 26 et 28, 27 et 28. Luc 5, 27, 28, il dit « Après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi, assis au bureau des péagers, et il lui dit « Suis-moi ». Et laissant tout, il se leva et le suivit. » Vous imaginez le choc? Lui, c'était un simple collecteur. Il est assis, Jésus passe et lui dit « Suis-moi ». Lévi ou Matthieu, l'évangéliste, le regarde. Il se lève et il le suit. Il a laissé son bureau de péager, il a laissé ses livres de compte, il a laissé sa fortune, et puis il a suivi Jésus. Et chez tous les collecteurs d'impôts, ça a dû faire l'effet d'une bombe. Qu'est-ce que cet homme, qu'est-ce qui a pu bien se passer dans son cœur, dans sa tête ? Au point de laisser une place qui lui rapporte autant d'argent. Il a juste poursuivi sa route avec sa plume, probablement pour écrire l'évangile. Et je suppose que cet abandon de poste de Lévi ou Matthieu est parvenu jusqu'aux oreilles de Zachée. Zachée qui était atteint du même mal, de cette cupidité, mais Lévi avait trouvé en Jésus un Dieu plus grand que l'argent, quelqu'un d'infiniment meilleur au point de tout laisser. Il est prêt à paraître, Zachée, rien aux yeux du monde, pourvu qu'il puisse voir Jésus. On a chanté tout à l'heure et prosterné. On a évoqué cette idée de s'humilier. Pour Zachée, aucun problème de s'humilier. Il a tellement le désir de remplir son cœur avec autre chose que l'argent qui n'a jamais finalement rempli son cœur. Et il est prêt à paraître ridicule, méprisable à la vue de tous. Du moment qu'il puisse voir Jésus. Ça m'a fait penser à M. Cahuzac, quand il a fait sa demande de pardon, pris dans toute cette affaire terrible, il a écrit ceci, il dit « J'ai mené une lutte intérieure taraudante pour tenter de résoudre le conflit entre le devoir de vérité auquel j'ai manqué et le souci de remplir les missions qui m'ont été confiées, et notamment la dernière que je n'ai pu mener à bien. Il dit « J'ai été pris dans une spirale du mensonge et je m'y suis fourvoyé. Je suis dévasté par le remords. Penser que je pourrais éviter d'affronter un passé que je voulais considérer comme révolu était une faute inqualifiable. J'affronterai désormais cette réalité en toute transparence. » Certains ont douté de la sincérité de ces propos. Moi, je veux les prendre pour ce qu'ils sont, juste. Un homme qui avait besoin de paraître tel qu'il est vraiment. D'arrêter de jouer une comédie. D'arrêter d'essayer de tromper le monde. Mais non, je ne suis quand même pas aussi méchant, aussi avare, aussi cupide au point, en tant que ministre des Finances, du budget, ou d'avoir un compte en Suisse. Non. Et il a été... Il dit ensuite qu'il a été libéré l'instant où il a pu confesser devant tous qu'il est effectivement l'homme qu'on accusait. Et je pense que cette transparence, elle est salutaire. Et je pense que c'est celle de Zachée quand il est prêt à se montrer, voilà, méprisable, mais vrai. Et il est là sur cet arbre. C'était le premier choc pour la population. Le deuxième va être plus pour Zachée cette fois-ci. Imaginez la scène, c'est au verset 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, là, sous cet arbre, il leva les yeux et lui dit « Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Il n'imaginait pas un instant que Jésus le remarque. Et Jésus s'arrête sous l'arbre, lève les yeux vers lui, et il l'appelle par son propre nom, Zachée. Et là, c'est incroyable. Jusqu'à présent, on avait lu que Zachée cherchait à voir Jésus. On pensait que c'était Zachée qui cherchait Jésus. Et là, on apprend que c'est Jésus qui cherchait Zachée. Il le connaissait depuis longtemps. La Bible dit qu'il nous connaît avant la fondation du monde. Il connaît ce qu'il veut sauver. Il connaît quand il va le faire et il connaît où il va le faire. Et là, on se rend compte que c'est Dieu qui cherche le pécheur. Naturellement, le pécheur, il veut éviter Dieu à cause précisément de son péché. Mais on voit là que Dieu connaît ce qu'il va sauver. Il sait quand, il sait où. Si aujourd'hui vous vous intéressez aux choses de Dieu, c'est que Dieu lui-même a mis cet intérêt dans votre cœur. C'est magnifique, je trouve, ça. C'est dire, voilà, personne ne cherche Dieu, mais Dieu peut mettre cette pensée dans le cœur de qui que ce soit. C'est vraiment encourageant. Des fois, il y a des gens, c'est des murs, on a l'impression que rien ne peut les atteindre, des choses spirituelles. Mais Dieu peut mettre ça dans leur cœur, comme il l'a fait pour nous. Un psaume 27, verset 8, dit, je vais vous le lire plutôt que de le massacrer, psaume 27, verset 8, il dit, « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. » Et il continue en disant, « Je cherche ta face, ô Éternel. » C'est beau, ça. C'est Dieu qui met ça dans notre cœur, ce désir de le connaître, de l'aimer et de le suivre. Waouh ! Ça signifie aussi que Jésus connaît toute Zachée. S'il connaît son prénom, il connaît qui il est. Il connaît quel genre d'homme. il connaît la réputation de Zachée, il connaît même les choses les plus intimes chez Zachée, ce que les hommes n'ont pas pu voir. Il a vu dans son propre cœur, au plus profond de son âme. Ça veut dire aussi qu'il connaît tout ça chez nous. Et pourtant, connaissant tout cela, connaissant le personnage, il s'invite chez le pécheur. C'est incroyable ça. Il lui dit, Zachée, à toi de descendre, il faut que j'entre aujourd'hui dans ta maison. Imaginez le choc. Je suppose qu'il a failli tomber de l'arbre d'abord. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Personne habituellement n'aurait juste voulu parler à Zachée. Juste parler. Non seulement Jésus s'adresse à lui, mais il veut aussi manger avec lui et il veut dormir. C'est le sens du terme, je veux demeurer dans ta maison, je vais passer la nuit. Et c'est ce qui provoque l'indignation de toute la foule. Il n'a pas dit... Je veux dire, j'imagine la foule a dit, mais attends, il y a des religieux, il y a des lévites. Pourquoi tu ne vas pas chez un lévite? Tu choisis le pire. Oui, c'est chez Zachée, ça c'est difficile à dire, que Jésus s'invite. C'est chez ce genre d'homme qu'il s'invite. La foule est scandalisée. Jésus, qui connaît Zachée, il veut avoir une relation personnelle avec lui. Avec l'individu le moins vertueux de Jéricho. Et quand Zachée y pense, il se passe quelque chose dans son cœur. Peut-être qu'il ne comprend pas tout, mais il commence à réaliser que le salut de Dieu est offert par grâce. Et non en raison de nos actes moraux, de nos mérites. La communion, elle est basée sur autre chose que sur nos mérites. C'est pas parce que je suis un gars bien que Dieu veut parler avec moi ou qu'il veut s'inviter avec moi. Non, c'est pas sur cette base-là que la relation est établie. Elle est basée sur une autre chose. Sur l'œuvre de Jésus-Christ. Et ça, c'est le choc de sa vie. Et cet homme, qui n'a jamais reçu quelqu'un dans sa maison depuis qu'il est collecteur d'impôts, il est dit que, verset 6, il se hâte de descendre et il le reçoit avec joie. Ça, c'est, je crois, le troisième choc. L'illustration de la vérité énoncée en Luc 18, Jésus avait rencontré un homme riche et lui avait dit l'homme riche lui avait demandé, mais que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Il lui avait dit, mais écoute, suis les commandements. Oh, mais je suis tous les commandements depuis tout le début. Alors il dit, mais que dois-je faire encore? Écoute, vends tout tes biens. Donne-les aux pauvres, tu auras un trésor dans le ciel, et puis tu viens et tu me suis. Et là, cet homme riche s'en va tout triste, parce qu'il n'est pas capable de laisser sa fortune pour suivre Jésus. Jésus n'est pas aussi grand, aussi beau que sa fortune. Et alors les disciples, ils réalisent, mais c'est difficile ce que tu as demandé là. Il dit, lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et ceux qui l'écoutaient dirent, et qui peut être sauvé? C'est impossible de faire rentrer un chameau dans le trou d'une aiguille. Et il dit, mais c'est impossible. Et la réponse de Jésus dit, verset 27, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et ici, on a l'illustration de cette vérité-là. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Faire entrer un riche dans son royaume, faire passer un chameau dans le trou d'une aiguille. On imagine que Jésus rentre dans la maison de Zachée comme le père rentre dans la maison avec son fils prodigue. Il ne nous est pas rapporté les échanges entre Zachée et Jésus. Certainement, il y en a eu autour de ce repas. Mais un moment, Zachée se lève, il se met debout, et devant le Seigneur, je pense qu'il le fait avec une attitude solennelle à ce moment-là, verset 8, mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici Seigneur. » Jusqu'à présent, peut-être dans sa tête, Jésus, c'était le rabbin en vogue, c'était peut-être même un prophète, peut-être c'était... voilà. Mais là, il confesse Jésus comme Seigneur. Le mot Seigneur, c'est Seigneur. Tu es le Dieu, tu es Dieu, tu as tout pouvoir pour régner sur ma vie, toute autorité. Hein, Paul dit dans Romains 10, il dit, si on confesse de sa bouche Jésus comme Seigneur, tu seras sauvé. Et là, il reconnaît Jésus comme le Seigneur de sa vie. Et il dit, je donne aux pauvres la moitié de ma fortune, la moitié de mes biens. Certainement, dans le travail de collecteur, il avait gagné une partie honnêtement. Après, il avait fraudé. Il avait volé. Mais je pense que c'est cette partie-là qu'il donne. Il dit, ok, tout ça, c'est pour les pauvres. Et ensuite, il continue. Il dit, si quelqu'un, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Alors ça, c'est 400%, hein. 4 fois. Oui, la loi prévoyait le remboursement d'un bien acquis de manière frauduleuse avec une pénalité de 20%, un cinquième. Tu ajouteras un cinquième si tu as volé ça, si tu as obtenu ça un petit peu malhonnêtement, tu dois rembourser plus que ça. Mais là, c'est bien au-delà, c'est 4 fois plus. Quand on avait volé quelque chose, hein, c'est en Exode chapitre 2, 22, verset 4, on devait rendre la chose volée au double. Vous aviez volé un bœuf, vous deviez 2 bœufs. Mais là encore, c'est 4 fois plus. La loi disait, si vous avez volé avec violence, si vous aviez même tué pour voler, alors vous remboursiez jusqu'à 4 fois. Et pour Zachée, c'est terrible ce qu'il fait là. Il reconnaît qu'il a extorqué, qu'il a violenté des gens, qu'il a vraiment été cruel, c'était avec rudesse qu'il a extorqué ses fonds et donc il doit rembourser au quadruple la chose. Et là, c'est, on imagine un choc pour la population qui commence à se mettre en rang devant la maison de Zachée et puis qui se félicite de finalement que Jésus ait choisi la maison de Zachée pour séjourner. Il ne sera plus jamais le même. Hein, Clément d'Alexandrie, un des pères de l'Église, dit que Zachée, le publicain, est certainement devenu pasteur de l'Église de Césarée. Et Zachée est devenu un prénom très courant au début de l'ère chrétienne. Je sais qu'il y a des femmes qui cherchent des prénoms en ce moment. Jésus dit, le salut est entré dans cette maison. Le salut est entré dans cette maison. Je pense que c'est physiquement, Jésus est appelé le salut. Vous vous souvenez de Siméon, quand il reçoit Jésus bébé dans le temple, il dit « Tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix parce que mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé. » Jésus est entré dans cette maison. Mais c'est plus que ça. C'est son cœur qui a été gagné. C'est sa vie entière qui s'est ouverte à Jésus-Christ. Et la transformation qui a lieu, c'est ce que j'appelle ici la puissance de la grâce qui se manifeste dans la vie de Zachée. Ça montre qu'il est libre. Libre de cette cupidité, libre de son péché, libre de tout ce qu'il cherchait à faire entrer dans son cœur jusqu'à présent et qui ne l'avait jamais satisfait. Et il dit, voilà, maintenant je suis libre de tout cela. Et le Seigneur reconnaît la grâce dans la vie de cet homme en disant, verset 9, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Tous les juifs sont fils d'Abraham, non? Et il dit, et Zachée c'est un juif. Et il dit, cet homme est aussi un fils d'Abraham. Et la Bible, le Nouveau Testament, fait une distinction. Il dit, le vrai juif, c'est celui qui l'est dans le cœur. C'est celui qui croit au Messie. Ça, c'est un vrai juif. C'est lui qui a fait la paix avec Dieu par Jésus-Christ. C'est celui qui croit dans celui que Dieu a envoyé, Jésus, pour le salut de nos âmes. Jésus emploie cette expression pour désigner un croyant. Abraham est appelé le père des croyants. Et si vous voulez être fils d'Abraham, il faut croire en Jésus-Christ comme le Messie, celui qui a payé pour vos fautes. Et Jésus conclut ce magnifique énoncé de l'Évangile avec le verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Si vous voulez expliquer l'Évangile, dites ça. Le Fils de l'homme, Jésus, est venu chercher, c'est lui qui a fait le premier pas. Il est venu sauver celui qui était perdu. Il le fait à la croix. Dans les jours qui suivront, il va quitter Jéricho, se rendre à Jérusalem. Là, il va être arrêté et il va acquitter le prix pour notre salut, la peine pour nos fautes, en se laissant clouer à la croix. Lui, le juste pour les injustes. Lui, le riche qui s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis de sa justice, de sa joie, de sa paix. La croix prouve que Dieu prend soin de nous et seule elle nous procure la sécurité dont nous avons besoin. Ne la cherchons pas dans l'argent ou dans quoi que ce soit d'autre, ce qui nous est naturel à tous, mais cherchons-la en Jésus-Christ. Cherchons la paix, le repos, la joie et la justice en Jésus seul, comme l'a fait Zachée. Que Dieu nous vienne en aide, parce qu'on se rend compte que ce désir de posséder, cette cupidité, elle est tapie dans nos cœurs, et que facilement, en vivant dans un monde qui est ainsi fait, on va tenter de reporter en nouveau notre confiance dans les biens, dans les richesses, et pour y trouver sécurité, paix, repos. Mais c'est faux. Tout le monde a des soucis d'argent. Ceux qui n'en ont pas et ceux qui en ont. Alors n'y cherchons pas notre sécurité. Plaçons-la en Jésus-Christ. Lui ne nous décevra pas. La croix a prouvé qu'il prenait soin de nous. On avait besoin d'être pardonné. Il s'est donné à la croix. On avait besoin que quelqu'un meure pour nous. Il s'est donné à la croix pour nous. Que Dieu nous aide à nous détourner de la cupidité pour venir à Jésus-Christ. Prions.